Chapitre 8. Damien. Suivant son habitude, il arrive en avance à l'église pour effectuer les repérages. Il s'assied tout au fond et guette discrètement les invités. Il sait qu'il va avoir du mal à trouver une fille qui convienne, comme chaque fois. Dans ces mariages chics et bourgeois, on ne croise que des filles élevées depuis leur plus tendre enfance comme des pouliches de concours. Cheveux nets, dentition impeccable, acné jugulé, jambes épilées, fesses musclées, tailleur élégant, port de reine, chapeauté, pomponné, éduqué, livré prêt à l'emploi. C'est bien joli tout ça, mais ça ne fait pas son affaire. Des filles de ce genre, il peut en ramasser à l'appel partout où il va. Ce n'est pas pour se vanter, mais avec sa gueule d'ange, il n'a généralement qu'à se baisser. Lorsqu'il se heurte à un peu d'indifférence, il lui suffit d'ajouter qu'il est avocat, et l'affaire est dans le sac. Il regarde défiler les jeunes femmes en tailleur clair ou robe sombre. Bien sûr, certaines sont moins jolies que d'autres, voire ingrates, mais enfin, il ne voit rien qui soit susceptible de le satisfaire. Il cherche une moche. Pas une fille quelconque, pas une fille sans charme. Une moche, une vraie moche. Elles sont beaucoup plus rares qu'on ne croit. Dans ce milieu, c'est quasiment mission impossible. Soit elles sont déjà refaites, les oreilles, le nez, le menton, pour rattraper un peu le désastre. Vous verrez, Anne-Laure est transformée. Elle est d'ailleurs beaucoup plus épanouie depuis son opération. Soit elles sont déjà entrées dans les ordres. Ça a été très dur pour nous au début. Mais elle a choisi sa voie. Depuis toujours, il y en elle une sorte de lumière intérieure. Il doit y avoir quelque chose de physiologique là-dessous. La laideur favorise la ferveur religieuse. C'est assez mystérieux, mais c'est prouvé. Aujourd'hui, pas de moche. Ça devait arriver. Depuis le temps que ça dure, 5 ans. 30 mariages. 23 petits laiderons et 7 vieilles peaux épinglées à son tableau de chasse. Loin devant Yann. Évidemment, il est satisfait d'avoir gagné le pari haut la main, mais c'est dommage que le petit jeu s'arrête de cette façon. Rien à se mettre sous la dent. Merde. Il est d'autant plus déçu que jusqu'ici, ça a marché à tous les coups. Une fois la proie repérée, c'est un jeu d'enfant de la faire tomber dans son escarcelle. Les termes du pari sont clairs. Tomber, pas coucher, sauf si on en a envie. Mais là, il ne faut pas exagérer. Pour coucher, il y a les pouliches de concours qui connaissent les bonnes manières et rechignent rarement à la tâche de ce côté-là. Il a sa fierté tout de même. Avec les jeunes moches et les vieilles belles, tomber, c'est suffisant. C'est assez pour prouver qu'on aurait pu coucher. C'est exactement comme si on avait couché, mais pas besoin de se salir. Yann et lui se sont mis d'accord là-dessus, dès le départ. Tomber la fille, c'est très précisément la mettre dans une situation où l'on sait qu'elle se laisserait faire si on allait plus loin. Comment savoir si on a réussi? C'est simple. Il faut qu'elle accepte de vous suivre dans un coin tranquille, à l'écart de la fête, dans un de ces coins qui semblent en vérité avoir été spécialement aménagés pour ça. Il faut qu'elle se soit laissée embrasser, toucher les seins, les fesses ou le sexe. Il n'est pas nécessaire d'avoir de contact direct avec la peau. À travers les vêtements, ça compte aussi. Elle s'enflamme d'autant plus facilement que ses attouchements leur sont refusés en temps ordinaire. Le baiser est absolument indispensable. Parfois, elles sont si laides qu'il doit vraiment prendre sur lui. Mais il faut bien en passer par là. C'est la loi du genre. Dura lex, sed lex. Et puis, se dit-il chaque fois pour se donner du courage, à vaincre sans péril. S'il se dispensait du baiser, tout cela manquerait de panache. 23 jeunes laiderons et 7 vieilles peaux en 5 ans, rien que dans les mariages. Il sait que certains pourraient être tentés de mettre en doute la réalité de son palmarès. Ce serait compter sans sa belle gueule d'ange et sans l'immense frustration accumulée par ces pauvres femmes. Ce serait oublier que, dans les mariages, tout, absolument tout, peut arriver. Dans les mariages, les femmes ne se comportent pas comme d'habitude, c'est un fait. Elles sont capables de choses dont elles n'auraient pas idée en temps ordinaire. Pourquoi ça? Il ne sait pas exactement. Il en profite, il ne l'explique pas. Peut-être que le fait de voir un couple s'unir pour la vie prépare psychologiquement le laideron à succomber à une entreprise de séduction menée tambour battant. Un mariage, ça vous tourne boule une mocheté. On a beau espérer, à force de se regarder dans la glace, on finit par douter d'y avoir droit comme les autres. Alors, un beau jour de mariage, visage rayonnant, sourire éclatant, baiser passionné, amour, délices et orgue, on tombe dans les bras d'un séduisant garçon qui a été gentil avec vous toute la soirée et qui, fait incompréhensible, a l'air de vous trouver du charme. On a beau penser que c'est louche, on a envie de croire au miracle. Et puis, comme on a bu pour se donner du courage, ça finit par passer tout seul. Les vieilles belles, c'est encore plus facile. Elles savent qu'elles n'ont plus beaucoup de temps, alors elles n'hésitent pas. Et puis, contrairement aux moches qui vous regardent comme si vous étiez l'archange Saint-Michel, les vieilles belles pensent que ça leur est dû. Elles ne se méfient pas. Pendant longtemps, ça leur est tombé tout cru au coin du bec. Alors, quand ça se produit encore, elles s'imaginent que c'est leur charme qui opère, les pauvres. Elles se la jouent, tu vas voir ce que c'est que faire ça avec une femme d'expérience. Elles ne se rendent pas compte que, de nos jours, les filles de 25 ans ont déjà beaucoup d'expérience, sans la peau qui pendouille au-dessous des bras. Il sait bien que son petit jeu avec Yann peut paraître grossier, cynique et, pour tout dire, écœurant. De l'extérieur, on pourrait le prendre pour un salaud, mais en réalité, pas du tout. Il veut juste leur offrir un joli souvenir. Depuis le temps, son scénario est au point. Durant la réception, il donne de sa personne. Il ne s'occupe que de sa proie, la fait rire, danser. Il attend 1 ou 2 heures du matin avant d'entamer la promenade romantique, sous les arbres, au fond du parc. Là, il suffit de quelques phrases banales et d'une proximité savamment calculée. Les moches sont souvent tétanisées et il faut les approcher centimètre par centimètre pour ne pas les effrayer. Les vieilles sont au contraire très entreprenantes et l'on doit faire très attention de ne pas les laisser aller trop loin. Vient ensuite ce qu'il appelle le tour du propriétaire. Il embrasse fougueusement en fermant les yeux, il étreint passionnément en prenant soin de ne pas compresser. Cela doit rester agréable pour sa proie. Il commence par lui caresser longuement les fesses, en descendant le long des cuisses si la demoiselle est mince, en pétrissant franchement le gras si elle est enrobée, puis il remonte le long du dos, longe l'épaule et descend vers les seins. Là, il s'attarde plus ou moins longtemps en fonction de la matière disponible. Puis il glisse lentement vers le sexe, qu'il caresse délicatement du bout des doigts, à travers le tissu. Chez les vieilles, il aime bien tester la fermeté du cou en y déposant de petits baisers. Parfois, il a l'impression que leur peau fond sous ses lèvres. Elle défaille littéralement entre ses bras, glapisse, palpite, s'abandonne. Elles disent « Oh mon Dieu !» C'est toujours assez émouvant. Il a bien failli se prendre au jeu quelquefois. Goûter leurs seins, laisser ses mains pénétrer plus avant, les renverser doucement et les prendre rapidement. Les satisfaire et se soulager. Mais il a toujours su résister. Il s'en voudrait d'aller plus loin. Ce serait vraiment dégueulasse. Il a sa fierté, merde. Quand le tour du propriétaire est achevé, on peut dire que l'affaire est dans le sac. La fille est tombée, bien tombée. C'est alors qu'il place sa botte secrète, le coup de génie dont il est vraiment fier. Elles sont là, toutes frémissantes, toutes chaudes et fondantes entre ses bras, et lui s'arrache brusquement à l'étreinte. Il met la tête dans ses mains, la secoue d'un air désespéré en disant « Non, je ne peux pas. Je te demande pardon, je ne peux pas. » Elles sont paniquées tout à coup. Elles ne comprennent rien. Elles demandent « Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas ?» Il répond « Non, non, je t'en prie, ne crois pas ça. » Il attend encore un moment, plus ou moins long, avant d'ajouter « Pardonne-moi, je me suis vraiment comporté comme un salaud. » Elle, au bord de l'hystérie, « Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi !» Alors il se détourne. Il cherche ses mots, comme quelqu'un qui va passer aux aveux. Son discours est rodé, calibré pile poil. Depuis quelque temps, il est avec quelqu'un. C'est tout récent. Peu de gens sont au courant. Il ajoute, l'air de rien. C'est pour ça qu'on t'a peut-être dit que j'étais célibataire. Une fille adorable, c'est du sérieux. Ce soir, il ne comprend pas ce qui lui est passé par la tête. C'est la première fois que ça lui arrive. Il culpabilise. Je ne peux pas aller plus loin. Je suis mal là. Je te demande pardon. Elles le regardent comme si elles avaient pris un coup de massue dans la figure. Elles sont trop éberluées pour pleurer ou pour se mettre en colère. Certaines se doutent qu'il leur joue la comédie, mais il la joue si bien qu'elles préfèrent y croire. D'autres esquissent un geste tendre. Il se dégage. Il est trop mal, il se sent trop coupable. Il ne peut accepter qu'en plus, elles le réconfortent. D'un coup, elles ont froid et se sentent très fatiguées. Il leur dit d'un air triste : « Il vaut mieux que je reste seul. » Au moment où elle s'apprête à partir, il le retient par le bras et chuchote d'un air pénétré. « C'est bizarre. Je suis mal et pourtant je n'arrive pas à regretter ce qui s'est passé ce soir. » Souvent, elle ne répond de rien. Parfois, elle murmure. « C'est pareil pour moi. » Et elle retourne vers la fête en vacillant un peu. Après leur départ, il prend le temps de se remettre. Il allume une cigarette. Il tapote avec satisfaction le petit autofocus extra plat dans la poche de sa veste. C'est dans la boîte. Deux ou trois photos du beau spécimen qu'il a épinglé ce soir pour que Yann puisse se rendre compte par lui-même. Parfois, en les voyant s'éloigner comme des automates avec ce frisson des épaules qui annonce les sanglots, il s'en veut un peu. Ce n'est jamais agréable de mettre une femme dans cet état. Malgré tout, il est sûr que, passé les premiers instants de déception, elles garderont un beau souvenir, un souvenir ému de ce qui aurait pu arriver. Il est sûr que ça restera pour elles un moment exceptionnel et très romantique. Il est sûr qu'elles penseront à lui comme à un type bien, qui s'est laissé aller mais n'a pas craqué, et ça le réconforte d'imaginer le beau rôle qu'il va continuer à jouer, pour toujours, dans leurs souvenirs. En général, il ne les revoit plus. Lorsqu'il rejoint la fête, elles sont déjà parties. Elles sont allées cacher leur amertume ou leurs larmes, les pauvres chéries. Pari gagné. Emballer, c'est peser. Pari, c'est la monnaie. Après l'effort, le réconfort. À 3 heures du matin, les vieux sont couchés et les filles bien élevées totalement décoincées. Alors il fait son marché. Les jeunes femmes extrêmement jolies et pas bégueules, ça ne manque pas dans les mariages bourgeois. Mais cette fois-ci, il va jusqu'au bout. À présent, il est assis dans l'église au dernier rang, à se demander ce qu'il fait là. À part la mariée, il ne connaît personne. Et encore, elle, il ne la connaît pas très bien. Ils ont juste pris un pot ensemble 2 ou 3 fois. Il a été vraiment surpris qu'elle l'invite à son mariage. Mais pas question de refuser. C'est exactement ce qu'il recherche. Des mariages où personne ne le connaît, où il peut chasser à son aise. Évidemment, s'il avait su que pas un seul laideron ne se pointerait à l'horizon, il aurait trouvé un prétexte. Le curé est sinistre, pâle à faire peur, avec des inflexions bizarres dans la voix. Il y a dans l'air quelque chose d'étrange, comme un contre-champ lugubre, imperceptible, qui se mêle à la voix du prêtre. Il éprouve soudain le besoin impérieux de quitter l'église pour retrouver le soleil au dehors. Sous les platanes, il fait les 100 pas en se répétant « Calme-toi, tout n'est pas perdu. Tu vas te rabattre sur une vieille belle. » Il a beau chercher à s'en convaincre, rien n'est moins sûr. Des vieilles belles, dans ce genre de mariage, c'est aussi difficile à trouver que de vraies moches. Trop chic. Trop conservateur. Il soupire en fixant le sommet du clocher. C'est une déconvenue, certes, mais il ne va pas se laisser abattre pour autant. Il a repéré énormément de jolies filles, et parmi elles, sûrement une occasion de baiser cette nuit à couilles rabattues. Il en est là de ses réflexions quand le miracle soudain se produit. Une Austin Mini arrive en trombe et se gare à quelques mètres de lui. En surgit un laideron si réussi qu'il a presque envie de remercier le ciel d'avoir répondu à son appel. La jeune femme s'extirpe péniblement de sa voiture. Elle est en nage et roule de petits yeux affolés. Elle est visiblement paniquée d'être en retard. Elle a tous les attributs d'une fille de son milieu. Taille prune et capeline de paille assortie, ornée d'un nœud de tulle vert d'eau, escarpin élégant, joli sac à main. Mais ce savant après n'a en rien entamé une laideur saisissante. Qu'est-ce qui ne va pas dans son visage? Il y a comme une dissymétrie. Les proportions sont faussées. À ce point-là, tout doit être d'origine. Aucune retouche. Elle a découragé même la chirurgie esthétique. Un vrai laideron de luxe. La jeune femme court vers l'église en haletant. Elle est petite et grassouillette. Elle pose une main sur son chapeau pour le maintenir sur sa tête et il voit s'agiter la chair flasque de son avant-bras. Elle disparaît à l'intérieur. Il sourit, enfonce les mains dans ses poches et se dirige vers l'église d'un pas conquérant. Il espérait la retrouver honteuse au dernier rang, mais non. Elle a remonté l'allée pour se placer devant avec la famille proche. C'est ennuyeux. Il est hors de question de s'attaquer aux intimes des mariés. Cela relève du principe de précaution. La demoiselle est si laide qu'il n'arrive pas à croire qu'elle puisse être une sœur de Bérengère. Mais on est souvent surpris de voir comment les gènes se distribuent au sein des familles. Il bouillonne d'impatience en fixant le gros nœud vert qui frétille au 3e rang sur le chapeau couleur prune. Il quitte l'église après la communion. Il se sent incapable de rester plus longtemps dans cet endroit. Depuis le début, ce prêtre le met mal à l'aise. Quelque chose ne tourne pas rond, c'est évident. Et puis, il veut se poster à un endroit stratégique pour observer la demoiselle de ses rêves. Quand les mariés apparaissent sur le seuil, le parvis est déjà encombré de photographes. En quelques minutes, c'est une véritable cohue. Il aperçoit Miss Tronchambier qui se fraye un passage dans la foule, puis se dandine élégamment jusqu'à son Austin Mini. Il a le temps de la prendre en photo juste au moment où elle s'engouffre dans sa voiture. Il contemple le résultat sur l'écran de son appareil numérique. Le zoom permet d'obtenir une excellente image, même à distance. C'est parfait. Elle ressemble à une grosse oie blanche tout enrubannée. Elle n'est pas restée pour les photos avec la famille proche. Les choses se présentent pour le mieux. Ma petite, prépare-toi à passer à la casserole. Pour se remettre de ses émotions, il a besoin d'une pause. Avant de se rendre à la réception, il décide de retourner à l'hôtel où il a réservé une chambre pour la nuit, pour prendre une douche et passer une nouvelle chemise. Sans être maniaque, il aime se sentir toujours impeccable et se change souvent plusieurs fois par jour. En repartant, il achète un paquet de cigarettes au tabac du coin. Lorsqu'il arrive au moulin, la fête bat son plein. Il est propre et frais, sûr de lui, prêt à passer à l'attaque. Bérangère vient vers lui et lui dit avec un sourire éclatant « Je suis tellement contente que tu sois venue !»«
Moi aussi, je suis ravie. Tu es rayonnante. »«
Merci. » Elle lui prend le bras. « Viens avec moi que je te présente. » Elle l'entraîne vers deux jeunes femmes en train de discuter. « Damien, je te présente ma sœur Marie et Agnès, la sœur de Vincent. Marie, Agnès, voici Damien, un brillant avocat. » On dirait qu'elle fait de la réclame pour un produit particulièrement alléchant. Il est d'autant plus mal à l'aise que les deux femmes le dévisagent sans manifester d'intérêt particulier. Elles disent simplement bonjour et sourient poliment. Ils échangent quelques banalités, puis cette traîtresse de Bérangère s'éclipse vers d'autres mondanités en les laissant seuls tous les trois. Il y a un moment de blanc dans la conversation. Damien a la désagréable impression d'être de trop. Il sourit.
« Bien, je vais aller me chercher une coupe au buffet. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose ?»«
Non, merci, » répond Marie en levant sa flûte à champagne encore pleine.
« Merci, non, » renchérit Agnès, avant d'ajouter. « De toute façon, quelque chose me dit qu'on aura tout le temps de discuter ce soir, à table. »
Il y a dans sa voix une inflexion moqueuse qui le déconcerte. Il voit Marie esquisser un sourire.
« Ah, très bien, tant mieux. »
Il s'éloigne sans trop comprendre de quoi il retourne. En marchant vers le buffet, il se dit vaguement qu'on l'a pris pour un imbécile. Cette fille, Agnès, quelque chose en elle ne lui revient pas. La sœur de Bérangère a l'air plus sympathique. Joli visage, chapeau original. Elle ne serait pas trop mal avec 5 kilos de moins. Sous la tente, il jette un coup d'œil au plan de table à la recherche de son nom. Effectivement, il dînera en compagnie des demoiselles. Il repère aussi le nom de deux confrères invités au mariage. Il demeure un instant perplexe devant ces listes rédigées en lettres anglaises sur un beau papier crème. Comment ont-elles deviné qu'ils seraient placés ensemble? Ça sent le coup fourré. Et puis soudain, c'est la révélation. Évidemment. C'est clair comme de l'eau de roche. Comment peut-il ne pas y avoir pensé plus tôt? Il se surprend à rire tout seul. Dire qu'il se demandait pourquoi elle l'avait invité. Il aurait dû s'en douter. Cette chère Bérangère a décidé de jouer les entremetteuses. Elle essaie de lui refiler son boudin de sœur. Il sourit. Plutôt flatté au fond. Il ramène en arrière une mèche qui lui tombe sur le front, boit une gorgée de champagne et, sa flûte à la main, part à la recherche de son laidron. Il s'attarde un moment à discuter avec ses confrères, bien qu'il n'en ait aucune envie. Mais puisqu'il va passer tout un dîner en leur compagnie, pas question de les snober. Il s'arrange néanmoins pour ne pas prolonger la conversation plus que nécessaire. Surtout ne pas s'encombrer de mondanités inutiles. Il veut conserver une entière liberté de mouvement lorsque se présentera l'occasion de passer à l'action. Il ne pense qu'à sa proie.